Bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui, il sera question d'un adolescent indien, d'une quête de justice et du chant des bisons. Je vous présente « Dans le silence du vent », un roman écrit par Louise Erdrich et paru en 2013 chez Albin Michel. Ce roman a été publié aux États-Unis sous le titre « The Roundhouse » et il a été traduit de l'anglais par Isabelle Reynarez. Il a obtenu la plus prestigieuse distinction littéraire américaine, le National Book Award. L'autrice Louise Erdrich est une poétesse et romancière américaine qui est indienne par sa mère et elle est une des figures les plus importantes de la littérature indienne contemporaine. La plupart de ses romans se déroulent dans une réserve indienne du Dakota du Nord. Et c'est effectivement dans cette réserve indienne que nous plonge dans le silence du vent. Nous sommes en 1988 et le narrateur Joe a 13 ans. Joe vit dans une famille heureuse, unie et aisée, puisque son père est juge sur la réserve et que sa mère est également juriste. Pourtant, la vie de Joe va changer douloureusement. Le roman s'ouvre tout de suite sur le drame qui va transformer la vie du jeune garçon et de celle de sa famille cette année-là. Louise Erdrich s'est distillé une inquiétante étrangeté qui entoure le retard inhabituel de la mère de Joe, Géraldine, qui n'est pas rentrée chez elle en ce dimanche après-midi. Je savais qu'elle n'était pas pour de bon à son travail. Elle avait répondu à un coup de fil et puis m'avait annoncé qu'elle passait à son bureau chercher un ou deux dossiers. Spécialiste des appartenances tribales, elle devait être en train de réfléchir à une requête qu'on lui avait adressée. Elle était à la tête d'un service d'une personne. On était dimanche, tout le calme. La pause du dimanche après-midi, même si elle était ensuite passée chez sa sœur Clémence, à l'heure qu'il était, maman aurait été de retour pour préparer le dîner. Nous le savions l'un comme l'autre. Les femmes ne se rendent pas compte à quel point les hommes sont attachés à la régularité de leurs habitudes. Nous intégrons leurs allées et venues dans nos corps, leur rythme dans nos os. Notre pouls est réglé sur le leur. Et comme chaque dimanche après-midi, nous attendions que ma mère mette nos pendules à l'heure du soir. Et donc, voyez-vous, son absence a arrêté le temps. Et c'est bien en fait une autre temporalité qui s'ouvre lorsque la mère rentre. Parce que le temps de l'enfance heureuse de Joe est terminé, parce que Géraldine, sa mère, a été sauvagement violée et battue. Son agresseur a même tenté de la brûler vive. Géraldine devient mutique, ne s'occupe plus de la maison, ne prend plus garde à son fils, ne va plus au travail. Elle reste dans son lit, sans manger les plats que son mari et son fils lui déposent devant sa porte. Le poids du silence est d'autant plus terrible qu'il recoupe une autre réalité. Géraldine refuse de dire le nom de son violeur alors qu'elle l'a manifestement vu. Joe, malgré son jeune âge, mène l'enquête, persuadé tout comme son père que le secret du nom du violeur réside dans les dossiers que sa mère traite chaque jour. Mais découvrir le nom du criminel ne suffit pas parce qu'il faut qu'il soit aussi jugé et puni. Or, Joe découvre, au travers de cette affaire qu'il concerne directement, une réalité de la justice sur la réserve. Un blanc qui a commis un délit, un crime sur la réserve indienne, ne peut être poursuivi par la justice tribale. Il y a un véritable enchevêtrement, un labyrinthe de lois qui entraîne bien souvent une impunité pour les meurtriers quand ils ne sont pas indiens. C'est ce qu'explique son père à Joe dans une métaphore saisissante. Il prend un morceau de viande qui a pourri dans le frigo et il plante une série de couverts dans le plat en putréfaction. D'une tape brutale, il a retourné le ragoût sur la table. Il a soulevé la cocotte. Le contenu était strié de peluches blanches, mais conservait sa forme oblongue. Mon père s'est de nouveau levé et a sorti la ménagère du meuble de cuisine. J'ai cru qu'il avait fini par devenir fou, et en le regardant, je pouvais à peine parler. « Papa ?»« Je vais t'illustrer ça, fiston !» Il s'est assis et m'a agité deux fourchettes sous le nez. Puis, d'un air tranquille et concentré, il a posé délicatement un gros couteau à découper au sommet du ragoût gelé, et tout autour, il s'est mis à empiler une fourchette, une autre fourchette, l'une chevauchant la suivante. Il a ajouté une cuillère ici, un couteau à beurre, une louche, une spatule, jusqu'à ce qu'il obtienne un fouillis plus ou moins organisé en une sculpture étrange. Il a apporté les quatre autres couteaux de boucher que ma mère gardait toujours bien tranchants. C'était de bons couteaux, tout en acier jusqu'au bout du manche en bois. Puis il s'est rassis en se frottant le menton. « Voilà » a-t-il dit. J'ai dû avoir l'air effrayé. J'étais effrayé pour de bon. Son comportement était celui d'un fou. « Voilà quoi, papa » ai-je demandé d'un ton prudent, comme on s'adresserait à quelqu'un qui délire. Il a frotté ses pattes grises et dégarnies. « Voilà la loi indienne !» Les questions centrales du roman pourraient donc être les suivantes. Comment rendre la justice à l'aide d'un droit qui repose sur une injustice fondamentale, la spoliation des terres des Indiens par les Blancs? Comment, lorsqu'on est Indien, faire confiance à une justice qui n'a pas véritablement le pouvoir de protéger les Indiens de la réserve? Ce roman a donc, comme vous le voyez, un aspect grave. Il évoque des questions à la fois juridiques et morales. Mais c'est aussi paradoxalement une œuvre qui peut avoir un aspect comique, parce que Joe a 13 ans, il a des amis avec lesquels il fait quelques bêtises, et j'ai particulièrement en tête une course-poursuite savoureuse. Je vous laisserai découvrir comment le curé, un ancien marine, fascine Joe par sa vélocité lorsqu'il se met à vouloir attraper un adolescent qui vient de lui faire une confession très drôle, mais particulièrement choquante. Et puis, c'est aussi le temps de la découverte du désir. Joe a un oncle, Whitey, qui vit en couple avec la belle Sonia, une ancienne stripteaseuse. Sonia considère Joe comme son neveu, mais le jeune garçon ne peut s'empêcher de regarder les magnifiques seins de Sonia. Je pouvais me presser contre eux aussi longtemps qu'elle me serrait dans ses bras. Je prenais soin de ne jamais aller trop loin, même si les mains me démangeaient. Pleins, délicats, volontaires et ronds. Les seins de Sonia étaient des seins à vous briser le cœur. Mais je crois que ce que j'ai le plus aimé dans ce roman, c'est la magie et les légendes indiennes qui se mêlent à la crudité de la réalité de la réserve. Joe voit un fantôme et son père, qui est pourtant un homme instruit et qui ne croit pas en Dieu, trouve ça parfaitement normal. Il explique à son fils que lui-même voyait de nombreux fantômes lorsqu'il avait travaillé dans un cimetière dans sa jeunesse. Le grand-père de Joe, le vieux Moshum, parle quant à lui en dormant. Il raconte, dans son rêve, un vieux récit de famine qui date du 19e siècle. Et le jeune garçon écoute fasciné, à côté de son grand-père, l'histoire terrible de la femme Akii qui fut prise pour un Wendigo par la communauté. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Wendigo? Un Wendigo, c'est un être humain qui est possédé et qui perd son humanité au point de vouloir se nourrir de chair humaine et puis aussi de l'âme de celui qu'il possède. En ces temps anciens, les Blancs venaient juste de spolier les Indiens de leurs terres, et comme ils étaient privés de leur terrain de chasse, ils mouraient à proprement parler de faim. Akii était une femme douée pour chasser, parce qu'elle était capable de voir en rêve où trouver des animaux. Mais il n'y avait plus de bêtes. Le territoire de la réserve qui leur avait été attribué par les Blancs était beaucoup trop petit. Et son mari, Mirage, qui était très infidèle, a voulu se débarrasser d'elle en disant aux autres Indiens qu'elle était un Wendigo, qu'elle pouvait les manger, ce qui était bien sûr faux. Et Mirage a voulu comme ça obliger Nanapuche, son fils, à tuer sa propre mère. Mais Nanapuche ne voulut pas obéir et il s'enfuit avec elle. Akii recommanda alors à Nanapuche de chanter le chant des bisons pour pouvoir chasser. Nanapuche chanta le chant des bisons à plein poumon, en continuant à aller de l'avant. Et enfin, dans cette blanche âpreté, la bête entendit son chant. Elle s'arrêta pour écouter, se tourna vers lui. Tous les deux étaient peut-être à 20 pas l'un de l'autre maintenant. Nanapuche voyait que l'animal n'était pas beaucoup plus qu'une peau flottant sur des os branlants. Pourtant, la femelle avait été gigantesque. Et dans ses yeux bruns, il y avait un abîme de chagrin qui ébranla Nanapuche, malgré son désespoir. « Vieille femme bison, ça m'empêche de te tuer, déclara-t-il, car tu as réussi à vivre à force d'intelligence et de courage, alors que ton peuple a été anéanti. Sans doute t'es-tu rendu invisible? Et pourtant, comme tu es le seul espoir qui reste à ma famille, peut-être m'attendais-tu ? » Nanapuche rechanta le chant, parce qu'il savait que le bison comptait l'entendre à nouveau. Quand il eut terminé, la bête le laissa la viser droit au cœur. La vieille femelle s'effondra en continuant à fixer Nanapuche de son regard plein d'émotion. Et celui-ci tomba à côté d'elle, épuisé. Alors vous pourriez trouver qu'on est loin, avec ces récits anciens, de la réalité horrible du viol de la mère de Joe et des problèmes de justice sur la réserve. Et pourtant, cette histoire du passé condense les problèmes que rencontrent Joe et sa famille. La quête de justice pour un proche, l'incompréhension d'un jeune garçon face à la cruauté, et finalement encore et toujours le problème des terres arrachées et de la réserve incapable d'assurer la subsistance et la sécurité des Indiens. Je vous recommande donc ce beau roman de Louise Erdrich, Dans le silence du vent, paru en 2013 chez Albin Michel, et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urban-radio.com.